Philippe Steinmann, Odiane ou la nécessité fatale. Sur le quai de la gare, j'avais remarqué ce jour-là, plaqué contre un treillis de lignes tranchées par les rails, la découpe de deux silhouettes noires. Un homme, une femme. Lui, je le connaissais depuis 4 ans. C'est sa profession de juriste qui me rapprocha d'Adrien Barberolle. Son regard était capable d'acidité et d'agitation soudaine quand la pensée avait en lui des intensités invisibles, peut-être pour un autre que moi, ou même inconnu de lui. Il avait le cheveu dispersé et un visage qui me rappelait parfois des portraits de princes d'un Moyen-Âge, décadent quand je le voyais de 3/4. Expressif, tout l'était en lui, et à voir ses yeux souvent fuyants ou interrogateurs, l'indifférence était impossible. Ils étaient destinés à 13 amples et surmontés de sourcils transparents, avec un manque d'abondance qui traduit l'élévation des idées. Couleur indéfinissable, sans les reflets bleus du nord, sans les teintes noisettes à nuances profondes comme chez les Méditerranéens. Ils n'avaient pas non plus des gris d'yeux slaves ou celtiques où l'on trouve plus de sentiments que d'imagination, non. Ils avaient des jaspes changeants où les verts transparaissaient dans les moments de parole exaltés et des miels s'y nimbaient quand les aveux les plus profonds de la personne cherchaient à se formuler. Des aveux d'ordre esthétique, presque toujours, qui s'efforçaient de masquer les facettes du sentiment, seule pudeur secrète que j'avais pu déceler chez Adrien. Nez long et mince, étroit, elle sans cesse mobile avec des battements de passion lorsque les jugements étaient sûrs ou remplis par l'infatuation de soi, ou si la sensation de posséder à fond les sujets envahissait sa personne d'une satisfaction authentique, dans les instants où la totalité de cet homme curieux se donnait au besoin à un raisonnement, à l'approfondissement d'une analyse. J'écris « au besoin » car cette démarche, plus intellectuelle et lente que spontanée, ne l'attirait guère, le lassait, à vrai dire. Sa bouche était assez mince, elle aussi, mais malgré ce trait qui aurait pu, selon des connaisseurs à prétention physiognomonique, l'apparenter aux intelligences sèches et cassantes, il y avait en elle de la bonté, surtout dans la lèvre inférieure, une sensualité non embarrassée de dépit. Bref, elle n'était pas une bouche, comme on en voit tant dans la judiciaire, pour déclamer superbe ou hauturière les lieux communs du passe-partout. Sa stature moyenne et ses proportions laissaient supposer chez lui de l'aisance physique et une grande habileté dans le geste. Il m'avait d'ailleurs confié qu'il avait beaucoup aimé le sport, sans en entretenir par la suite une habitude têtue. Il se disait, somme toute, d'une médiocrité correcte, mais en modeste qu'il était, je lui faisais toute confiance sur ce point, car sa force physique semblait indiscutable. Dans sa démarche solitaire, il y avait quelque chose d'assuré, de fiévreux, de l'aérien conclu par du solide, un assemblage du paysan bien enfoui dans ses bottes avec du jeune débutant intimidé par la foule. De la gravité romaine affranchie des traditions de la fantaisie baroque. Et quand il passait dans les rues, sur les places, regard apparemment absent, il gardait la tête en avant, penché sous le poids des songes, des dialogues secrets entre son âme et celle des choses. Il semblait rêver sous des sensations fugitives, multipliées, à coup sûr fluides et surprenantes, si bien que l'aborder pouvait paraître délicat. En outre, on le connaissait sans le connaître, et le piéton moyen donnait le change en racontant à qui le voulait bien des pyramides de suppositions chères aux provinciaux disséquées dans les romans. On lui inventait des vies, des comportements imprévisibles. Personne n'était d'accord du fait qu'on supposait en lui de l'ombre et de la vision, peu et tout, de l'horizontale et de la fulgurance, l'insaisissable et le démesuré. Il passait pour l'homme qui ne parle pas. Erreur, comme on le verra. La femme qui l'accompagnait sur le quai, vide ou presque, et près de laquelle il gardait un silence épais, chargé de pensées échappant à la simple observation, avait et garde une finesse que son sexe n'affiche pas aussi souvent qu'on s'égare à le dire. Elle avait une voix lointaine, semblable à celle dont un poète rêve au gré d'un inoubliable sonnet, avec un timbre dorien qui aurait galvanisé l'attention des sculpteurs antiques, des maîtres excellents qui ont créé la femme de la Renaissance. Cette voix, je l'avais entendue pour la première fois, grâce à quelques mots de politesse distante. On m'avait accueilli avec une amabilité suffisante et un tantinet crispé lorsque j'étais venu, un jour très quelconque de novembre, apporter à M. Barberolle une nouvelle sans intérêt immédiat. Voix lointaine, ai-je dit, oui, calme et d'une extraordinaire profondeur, avec, en transparence, une incroyable possession de soi. Voix maîtresse et royale, au travers de laquelle, attentive, une oreille aurait pu discerner une sensibilité exercée et l'exquise faiblesse de l'amour. Voix cuivrée et à l'accent wagnérien, pour qui aurait cherché en elle des traces de romantisme inspirées de brumes et de forêts. Caresse troublante où Lucile se serait reconnue, sonore, pastel jaillissant, curieux éventail. Une voix dont la définition ne se peut donner en aucune description précise. Sensation d'un thème et modulation azur et nuage. C'était ce même jour que j'avais donc aperçu, mais dans un court instant, le visage ovale. Une montée du sentiment dans l'intelligence la plus pénétrante et la plus vigoureuse. De longues et choyantes vagues de cheveux d'un blond tirant vers le châtain épousaient des joues égales et légèrement penchées pour accompagner un regard d'analyse. Cheveux de tempête, marines encalmées sous un ciel d'automne, mais voilées d'un parfum que je découvris autour d'eux pour impression profonde. Ses lèvres avaient un aspect de ligne recherchée sans excès. Mouvance calculée, imprégnée de vie orgueilleuse et tenace, tendresse possible, douceur charnelle dans une plastique expressive pour effiler un baiser. Désirs incarnés mis en relief par une discrète et claire avancée des dents. Lèvres étranges aux articulations grecques, dessins envoûtants, mystères colorés, scène héroïne, Valoris à Mortefontaine. Cette bouche devait avoir des rires éclatants et des étonnements purs, de féeriques interrogations et des silences rageurs. Déroutante souplesse qui manifestait un tempérament brûlant, avec assez de nonchalance pour ne pas effaroucher l'inconnu de passage. Femme, elle avait dans le regard de rapides éclairs et une expressivité impossible à saisir d'un coup à cause de ses variations. Par ce regard, elle aurait fasciné un troubadour albigeois ou un inquisiteur rompu au charme de toutes les sorcelleries, praticien confirmé de tous les exorcismes. Seul un philosophe, sage et placide, pouvait le soutenir longtemps, et dans les quelques secondes où je le croisais, je me suis étonné que M. Barberolle ait pu le partager dans le quotidien. Peut-être pour lui seul, ses yeux devaient-ils se traverser d'étoiles, se revêtir d'un âme de passion et de poésie sereine. Regard bleu, avec de l'océan et d'immenses plages habitées par des tremblements d'air sous de vastes rayons. Regard mythique, qu'aurait chanté un vieux joueur de sitar sur les bords d'un fleuve ancien, et sur un mode saphique aux frontières d'un jardin pas encore interdit. Depuis l'entrée, elle s'était éloignée vers le salon pour inviter M. Barberolle à venir me trouver. J'avais alors remarqué une démarche aussi princière que la voix, taille élancée d'une minceur qui n'excluait pas les formes. Son pied effleurait les dalles dans un sifflement discret, une légèreté qui se voulait vaporeuse. Je vis un peu d'étude dans cette allure. Je crus en voir, sans être aujourd'hui bien certain de cette impression rendue floue par le temps. Car le déhanchement n'était pas affecté et suggérait plus le charnel qui ne le démontrait. Dans le maintien, il y avait de l'éventuel, des inclinaisons à peine esquissées, mais assez ondulantes pour qu'un œil, si intrigué que le mien, les saisît. Adrien me reçut dans le salon avec la gentillesse que je lui connaissais. Entre nous, il y avait déjà une forme de lien, et par simplicité, nous nous appelions par nos prénoms. Nous échangeâmes dans la fumée des cigares et du thé les nouvelles dont j'étais venu l'entretenir et d'autres qu'il avait à me transmettre. Il était souriant, chose rare, détendu, plein d'aisance. J'étais pas mal surpris de le voir ainsi disposé, moi qui lui savais un comportement régulièrement agressif et sombre avec autrui. Avec moi, un peu moins. Odiane vint enfin nous rejoindre. J'avais appris son prénom par la suite. Dans un grand fauteuil de cuir, elle s'était assise en silence, et comme ses yeux parcouraient vaguement les titres de la bibliothèque, je pus éprouver les sensations laissées par son profil. Elle avait le teint hâlé, finement accentué par l'éclairage. La netteté de la découpe du front lui donnait une ampleur un peu mâle, si marquée chez les femmes d'intellect que séduit une profonde réflexion. L'arête du nez prenait haut sa naissance et lui conférait un je ne sais quoi d'athénien. C'est alors que sa bouche me sembla plus marquée et que son manteau traduisait une chaleur sensuelle que de face il ne laissait pas voir. Il était évident qu'elle éprouvait un peu d'impatience et que la rapidité de mon départ lui serait agréable. Elle fut avare de paroles quand j'ai pris congé. Tant pis si je fus indiscret. « Adrien, lui dis-je sur la terrasse, je suis heureux de vous avoir, de voir avec une présence féminine. J'en suis d'ailleurs charmé. Puis-je penser que vous êtes tenté par le mariage ? Oh, je serais tellement heureux si je vous voyais le visage enfin détendu comme ce soir. La chose est si rare que j'ose la remarquer, excusez-moi si je vous parais cavalier. Oh, pas du tout, cher ami, me répondit-il. « Mais vous êtes fort loin du compte. Cependant, puisque vous vous intéressez tant à moi, il est probable que je vous éclaire. Je ne parle guère, sauf à vous. Vous le savez, n'est-ce pas? Alors je vous raconterai l'histoire de cette présence, comme vous dites. Et puis je sais votre fidélité discrète. » Nous nous étions séparés sur ces mots, mais je regagnais mes pénates encore sous le charme de cette femme qui m'avait tant troublé. C'était bien sous l'effet d'un charme, car je me souviens parfaitement qu'au long de mon chemin encombré de feuilles mortes et de pluie, mon imagination avait été embarrassée, fortement sollicitée. Pour moi, qui croyais avoir une opinion précise au sujet d'Adrien Barberolle, tout me semblait remis en question. Le mystère de cet homme si réservé devenait de plus en plus dense à chacun de mes pas. Pourtant, j'étais souvent allé chez lui, mais depuis plus d'un an, j'étais presque sûr qu'il n'avait reçu personne. Je l'avais toujours vu seul, passablement renfermé sur lui-même, et nos conversations se réduisaient la plupart du temps à mon propre monologue. Dans quelques échanges mieux partagés, il avait eu des interruptions suivies de méditations, avec les yeux perdus sur les feuillages ou les livres. Par respect pour lui, je n'avais jamais tranché ces silences bizarres qui, je l'avais bien senti, n'avaient rien de commun avec les sujets entrepris. Puis il revenait à nous et me disait avec un peu de gêne « Oh, je suis confus dans mes songeries, oh, je vous demande de les excuser. » « Vous me souteniez tout à l'heure. » L'entretien reprenait un meilleur train. Mais ce jour-là, tout s'était embrouillé en moi. Adrien m'attirait beaucoup par ce côté très imprévisible. Il m'est difficile d'affirmer si le choix de cette épithète s'adapte justement à la relation qui existait de lui à moi. Je l'observais. En lui, je trouvais un ami, puisque jusqu'alors, je dois dire que je n'en avais pas eu. Aucun homme ne m'avait paru, hors lui, digne d'une confidence approfondie. Nos goûts s'approchaient sensiblement, et la capacité que nous avions de passer de longs moments sans rien dire et sans éprouver le désir d'une séparation, pour cause, m'apparaissait comme un gage d'excellence. Certes, comme beaucoup de gens qui se regardent en surface les uns les autres, je m'intéressais à certaines personnalités, par ailleurs séduisantes, à leurs inclinations, à leur rythme. Pour Adrien, mon intérêt était sans cesse relancé. Il en est de ces gens à propos desquels on veut savoir quoi, oh, n'importe, tout. On est presque apaisé si l'on sait qu'il n'y a rien à savoir, et on se trouve rassuré pour prendre le libre chemin de l'indifférence. Le trottoir avait lentement défilé sous mes pas, avec des temps morts pendant lesquels je ne pensais même plus. Et puis je m'étais dit qu'après tout, la vie et les sentiments de cet homme n'avaient aucune importance si grande dans ma vie, que les questions que je me posais n'avaient aucune valeur essentielle et ne me concernaient pas au premier chef. Idée tout à fait juste en l'occurrence et à cette époque. Après tant d'années, la mémoire me trahit quand il s'agit de passer en revue certains détails. Hors quelques notes, je n'ai tenu aucun journal régulier au sujet d'Adrien, car en ce temps-là, je ne songeais pas que sa toute proche famille prendrait tant de place dans mon existence. Chapitre 2. Odiane était restée quelques jours chez Adrien. Une ou deux fois, j'avais croisé le couple en promenade, séparé de lui par l'étendue de la rue. Ils marchaient lents et paisibles, apparemment rapprochés malgré la différence sensible entre leurs âges. Pour Odiane et Adrien, c'était peut-être un amour ancien, me disais-je, une rencontre dans les allées du prétoire, une reconnaissance de soi dans un inconnu qui vous a frôlé de sa toge. Autant de réponses impossibles à donner, car je ne savais pas l'histoire particulière de ces deux êtres si dissemblables et si proches, chez lesquels je ne pouvais apercevoir que des contrastes. Un soir, revenant à pied d'avoir vu je ne sais plus quel film, j'avais longé la propriété d'Adrien Barberolle. Par les cils des persiennes avait en même temps filtré une lumière tamisée et des mesures du deuxième mouvement de la Symphonie du Nouveau Monde. Je m'étais demandé si pour moi elle n'était pas la symbolisation de leur découverte réciproque, l'objet d'une commune affection, d'une attirance partagée pour la terre, le sentiment du voyage et de l'eau. Je ne sais qu'une chose, qu'à cette époque cela m'avait frappé, et d'autant plus que cette symphonie je l'avais beaucoup aimée dans ma jeunesse. Odiane était là, je le savais, et je les avais imaginés ensemble, lui les yeux égarés par moments sur le plafond, un corona négligemment incliné entre ses doigts jaunis, elle, déchaussée sur le moelleux canapé, jambes sous ailes repliées, lisant un Proust. Leurs regards s'étaient peut-être croisés ou flambaient des révélations, et je l'avais imaginé disant: Oh, Proust analyse mieux que toi la mémoire du cœur. Mon imagination poursuivit en inventant quelques bouffées nerveuses traversées par la réplique d'Adrien. Oh, certainement, aimer, au reste, n'est rien. J'accélérais pas pour rentrer vite et poursuivre mes songes avant de m'endormir. Pourtant, le sommeil n'était pas venu. Je m'étais 100 fois tourné, retourné, levé, recouché, poursuivi par ces idées que, probable, je fabriquais de toutes pièces. Mais qui pouvait être cette femme assez jeune? À l'évidence, elle n'approchait pas trop la quarantaine, et lui devait bien avoir dans les 50 ans. Malgré tous mes efforts, je n'arrivais pas à me délivrer de leur image. Je connaissais Adrien, ou alors j'avais cru le connaître. Certes, beaucoup de choses m'étaient obscures à son sujet, mais n'avaient pas relevé d'une inquiétude à propos de ses sentiments pour une femme. Sur ce point, je ne l'avais jamais entrepris. La correction me l'interdisait. En outre, je le croyais tout bonnement célibataire à ma façon. Il aurait eu le droit de rester évasif ou vexé, et je tenais à son amitié. La silhouette de cette femme avait poussé ma curiosité. Son visage, ses cheveux, sa beauté incontestable et rare, son expression lente et vive à la fois, insouciante et concentrée, son profond regard, tout cela répondait à la personne d'Adrien et s'en éloignait d'étranges manières. Elle trouvait sûrement en lui une séduction toute particulière que moi, loin de leur histoire, j'étais incapable de saisir. Sûrement il y avait entre eux de ces traits complémentaires qui lient en certaines conjonctures des individus qu'on croyait faits pour se côtoyer sans se voir jamais. S'étaient-ils rencontrés récemment? Avait-il des familles proches pour le sang? Quoi encore? Je trouvais alors du plaisir à m'interroger. 3 semaines après la visite dont j'ai parlé, je m'étais retrouvé auprès d'Adrien parce que j'avais éprouvé l'impérieux besoin de me sentir avec lui dans le vague espoir qu'il me donnerait les explications promises. Hélas, il n'en fut rien. Et mon dépit augmenta au cours de propos dont les plus originaux furent d'une désastreuse banalité. Les dernières explorations océaniques, tel récital donné par je ne sais plus qui, l'achat d'un in-folio chez un spécialiste Quai des Grands Augustins, une incroyable affaire, bien sûr, hors rue de Seine. Il avait trouvé un étain de valeur, une gravure numérotée. Je l'avais suivi dans l'admiration de ses trouvailles enveloppées du parfum d'Odiane. Odiane, je n'aurais pas osé lui parler sans que lui ait fait le premier pas. Ainsi régnait en moi le pénible ennui d'être venu pour rien. Il m'avait promis d'éclairer mon esprit et je ne faisais qu'attendre sans rien obtenir. Apercevant une édition du Matéotime, j'avais risqué. Littérature qu'elle doit aimer, je suppose. Mais il resta muet, sans que son teint ait changé. J'épiais tout. Il fit seulement un geste de la main, comme pour écarter une vision trop brusquement surgie. Je sentais que je l'avais dérangé par cette remarque, mais, politesse, il ne me le montra pas et enchaîna sur un autre sujet. L'impatience due à ma déception me poussa à m'éloigner pour ce soir, et je ne le revis pas de plusieurs jours. Pendant un printemps, il disparut sans m'en prévenir, sans me laisser aucune adresse en cas de nécessité. Sa maison resta close et j'en vécus presque une sorte de soulagement, car en fin de compte, la présence d'Adrien excitait ma curiosité sans cesse affamée. On pourra me reprendre que quand je parle d'Adrien et d'amitié, le mot sonne faux dans ces conditions. Il était revenu fin mai. Nous nous étions alors revus plusieurs fois et nous étions allés dîner à Paris dans un restaurant du quartier latin où, disait-il, on respirait le seul air nourricier de la France et de la planète. C'était dans les environs de la place Maubert. Vers le 15 juillet, au moment où je m'apprêtais à prendre des vacances en Grèce pour m'enchanter de Delphes et du Dodécanèse, Odiane revint, mais je ne la vis pas. Puis, à mon retour au début de septembre, Je n'avais trouvé personne chez Adrien et l'état d'abandon de son parc m'avait fait comprendre qu'il avait dû lui aussi partir depuis juillet et probablement avec elle. Une fois, pourtant, je trouvais chez moi une carte d'Adrien. Venez chez moi quand vous voudrez. Depuis Strasbourg, je lui avais annoncé mon arrivée pour le 20 octobre et ma visite. Le ton de son invitation était un petit encouragement, selon moi, et relançait mon impatience de savoir, impatience qui jouxta tout à coup l'obsession. À cette attente dont je sentais approcher le dénouement, se confondait pour la première fois une impression nébuleuse de peur, une appréhension qui me remplissait de la transparence intuitive et impalpable que quelque chose allait se passer. Tant pis et tant mieux. J'étais donc revenu voir Adrien dans un demi-état d'énervement, et il dut s'en apercevoir. Ma conversation avec lui était agacée, agitée. Je crus découvrir qu'il mettait de la distance entre nous, qu'il avait remarqué ma curiosité et voulait l'entretenir. Il est certain que cette fois encore, je ne lui posais pas de questions sur Diane et que nos propos n'arrivèrent pas au sujet qui m'avait fait courir chez lui. La fin octobre jaunissait les arbres de notre rue et un capricieux soleil d'automne consolait la nature avant les premières gelées. Je tuais mon temps à lire, traînant à Paris pour ne rien voir, ne rien acheter. La vie semblait devoir pour moi continuer ainsi, plate, partagée entre le travail et l'ennui, sans vouloir dire une lassitude qui me faisait oublier allègrement Adrien, avec lequel je sentais que je n'aurais plus à échanger que du banal. Seule cette femme d'une inégale beauté m'intéressait, me tenaillait du désir de la revoir pour renouveler des impressions, pour les savourer, me refaire un plein de supputations et de songes. Un 3 novembre au matin, je me penchais à la fenêtre de ma chambre lorsque j'aperçus un taxi devant la maison d'Adrien. Le chauffeur traversa le parc, portant une valise et un sac de voyage. Odiane suivit, vêtue d'un long manteau noir dont le capuchon bordé de fourrure était rabattu en arrière, cheveux largement répandus sur les épaules, bottée. Elle monta rapidement dans l'auto avec Adrien et le taxi démarra. Le temps de me chausser et de passer en vitesse un parka, je sautai dans ma voiture et m'arrêtai devant la gare après de nombreuses imprudences. Je pris un billet pour Paris au cas où j'aurais à les suivre, puisque pour savoir, je me sentais prêt à tout. C'était bien sur le quai en direction de Paris que se trouvaient Adrien et Odiane, à l'extrémité nord pour être en tête du train. Comme j'étais parmi une vingtaine de personnes battant le pied, je pensais qu'Adrien ne m'avait pas remarqué. Il avait une longue cape noire et je vis que de son bras, il entoura la taille d'Odiane. Plusieurs fois, il noya son visage dans l'abondante chevelure que cuivraient les premiers rayons timides. Plusieurs fois, je la vis sourire. Ah, ainsi, c'était bien un sentiment fort qu'il y avait entre eux, qui s'enlaçait comme des amoureux. Elle passa son capuchon et prit l'allure de ces femmes en fuite qui donnent une émotion facile dans les films de cape et d'épée. La sonnette me fit sursauter. Les voyageurs épars commencèrent à faire quelques pas pour rejoindre un repère habituel et le train se coula le long du quai dans le hurlement pénible des sabots. Il y eut l'agitation de ceux qui descendaient, des autres qui empoignaient les mains courantes. J'en ai profité pour me faufiler à quelques enjambées d'Odiane et d'Adrien. Il souleva la valise et le sac, les poussa dans le wagon. Odiane monta seule, et leur adieu dura jusqu'à l'ébranlement de rames. Adieu tendre, apparemment, devant lequel je ne pus rester indifférent, car nous existons un peu dans la vie de qui nous fascine. Ils échangèrent longtemps des signes, et quand les feux rouges du train disparurent dans l'inclinaison des voies, Adrien Barberolle resta rivé au même point, relief unique sur l'ensemble de mes images. Vite revenu près de la sortie, je restai pour l'attendre. Il se retourna enfin et se dirigea vers moi comme un aveugle. Je le saluai. « Ah, bonjour, vous semblez arriver par le même train qui emmène Odiane vers ce Paris qu'elle me préfère. Oh, je dis ça. » Il n'acheva pas. Sa voix était coupée. Nous étions alors sortis de la gare, et comme nous descendions les marches, l'esprit plus tranquille il reprit. « Vous savez qu'il y a des moments de la vie qu'on n'aime pas voir se répéter. » Ces heures d'angoisse où le passé s'accumule en un bloc compact sous lequel nous étouffons. Et puis on se retrouve ensuite, ou dans le même temps, en présence d'un avenir qui fait face, que l'on ne distingue pas, comme un paysage derrière un premier plan opaque. Nos mains, nos bras, nos yeux se démènent en vain pour trouver une échancrure. On se sent étranglé, on a envie de crier. Ainsi en est-il dans les mauvais rêves. Banal, on pourrait presque appeler ça un trou de la pensée. Mais il n'en est rien. C'est bien plus complexe. L'impression se mêle de n'exister pas ou plus du tout, et au contraire de le faire à la fois avec une très grande intensité. On existe le vide. Paradoxal, non. Rien n'est plus réel. Même si le verbe « exister » exclut cette construction, c'est la seule façon que je trouve d'exprimer cette sensation, de la transposer. Ce décalage énorme entre un passé immédiat et le présent, en contact ou pourtant direct, crée en moi une faille si profonde qu'exister ce vide me donne envie de mourir tout de suite et de vivre plus que jamais. Je me sens équilibriste entre le lâcher d'un trapèze et le saisir du suivant. Sourd, je ne vois rien, aveugle, je n'entends rien. Et tous mes autres sens meurent, on dirait. Ces recommencements d'adieu dont je ne vois pas la fin me sont une répétition d'épuisement. Ces minutes si présentes des êtres, je devrais dire de l'autre, après elles, minutes si vides, d'autres présences et de nouveau d'autres vides. Cela me brise le cœur et me met l'âme à rude épreuve. Cher ami, lui dis-je platement, il y a tout de même de bons jours dans la vie. La solitude ne les empêche pas. Les retrouvailles sont d'autant plus douces. La vie, quelle qu'elle soit, peut se trouver des justifications. Par exemple, se dire qu'on y rencontre une sorte de... Comment dirais-je, voyons. Oh, cher ami, vous m'amusez avec votre essai de sermon qui se casse le nez. Ben, si vous y tenez, d'accord. Cela ne fait rien, la vie est pour moi, dans ces heures-là, le septième cercle de l'enfer. Je dois reconnaître pourtant cet avantage que la condamnation définitive n'a toujours pas été prononcée et que le paradis, au moins sur terre, faites encore partie des possibles, des probables si vous préférez. Ah, bon, vous me semblez ainsi plus raisonnable. Raisonnable, moi, vous plaisantez et m'étonnez. La raison. La vie est une accumulation d'actions, d'attitudes et de pensées déraisonnables. Heureusement, je le redis. L'avis de qui se prétend le plus raisonnable contient par jour assez de déraison pour qu'il ne crève pas. Quand vous vendez vos produits, vous espérez la déraison de vos clients, et moi des jurés quand je plaide. Si raison il y a, elle est animale, purement. Le raisonnable est la mort de l'homme et de sa possible fantaisie, de tout ce qui déroute, ergo de l'intelligence. L'absurde est seul créateur. Raisonnable, une nef de cathédrale. Ainsi, chaque fois que je vous paraîtrais raisonnable, vous devriez froncer le sourcil devant votre propre tentation. Le discours a du nerf. Mais on n'a pas l'intention de vous contredire. Je n'en ai ni le cœur ni la capacité. Venez, allez, allons prendre un pot chez Marcel. Il n'y a pas trop de monde et les amateurs du petit noir sont partis. La magistrature assise est moins agitée. Devant nos tasses matinales, il me demanda mes occupations. Je fus assez évasif, mais comme il avait de la finesse, il n'insista pas. Nous restâmes tranquilles dans un demi-silence, entrecoupé par les bruits du bistrot, les rengaines, les allées et venues, l'odeur des gauloises. Nous étions encore embrumés par ce matin comme un autre, et j'apercevais de profil le regard fixe d'Adrien, qui semblait voir au-delà des objets et des gens. Les bruits ne le surprenaient pas. Il avait de la statue avec des ombres de larmes difficilement contenues, et je sentais très bien que le réquisitoire de tout à l'heure avait été le résultat d'une décharge d'énergie, qu'il y avait eu dans ses mots plus d'énervement que de sincérité. La nouvelle séparation d'avec Odiane l'avait rendu batailleur et revêche. Ses arguments étaient allés plus loin qu'il ne l'aurait fait dans un moment ordinaire. Il m'aurait agressé surtout, capable alors d'utiliser n'importe quel paradoxe pour s'étourdir. Rarement je l'avais vu aussi échauffé, aussi sûr de la solidité de ses affirmations. Il attaquait sous l'effet du dépit, et je constatais alors qu'il ressemblait à la plupart des autres par cette alternance dont il était victime. Une présence aiguë de la personne presque aussitôt remplacée par l'abattement complet. Dans le bistrot de Marcel, voilà que maintenant, il se renfermait, mais pour mieux rester avec lui, je n'interrompais pas ses songes. Je craignais aussi de le rappeler à moi, et par respect pour lui, pour ne pas briser ce que j'imaginais un voyage avec Odiane, main dans la main. Dans sa solitude près de moi, je le sentais près d'elle. Elle descend du wagon. La voici sur le quai, et puisqu'elle est jolie et séduisante, il ne manque pas de galants hommes, des jeunes surtout, pour lui porter sa valise, lui trouver un taxi, lui demander qui sait où elle dînera ce soir. Non, elle est seule, sa valise est lourde, toujours pleine de livres, de papiers, de cahiers, de feuilles gribouillées par son écriture fiévreuse, où s'élèvent l'exigence et le violent désir de vivre. Elle descend les escaliers de la gare de Lyon, et dans le taxi, elle longe la Seine et le quai Saint-Bernard. La voici bientôt place Saint-Michel. Elle paie, de nouveau la valise et le sac. Il y a déjà plein de monde pour traîner la savate. Les facultés sont ouvertes depuis peu. Dans le gros des piétons, elle avance à grands pas, sûre, équilibrée, bien plantée dans la vie. La pluie commence à tomber, ce grésil parisien qui colle tout de suite aux asphaltes mouille les grilles au pied des platanes et fait perler les rampes de bois aux plateformes vertes du 21, du 27 et du 38. Il y a l'étal d'un marchand de croquandes. Plus loin, ça sent le maraud chaud dans une immense poêle qui pétille. Bonsoir, l'express deuxième. Les bus se vident sans interruption, remplis. Deux agents en cape blanche, des petits blancs, des petits noirs, des cartes postales avec des diables qui tirent la langue du haut de Notre-Dame. Saint-Boulevard, des causeries, des chaussures, des cravates, des rires, des ombres pressées, Cluny. Elle a posé sur un banc ses paquets, sur la planche un clochard, puis ses haricots dans la gamelle de Roger la Grenouille. « Alors, la petite dame, c'est-y pas lourd tout ça ? Elle est enfin arrivée chez elle, intérieur à la fois douillet et fantaisiste. On y trouve des choses dont la définition se perd dans les parfums de l'ambre et du cèdre. Et quel désordre! Bonjour, monsieur Barberolles. On dirait que les gens se rassurent en appelant les autres par tous leurs noms, à l'antique. Adrien et moi avions sursauté à l'interruption brutale et cependant bénéfique du boucher. Je vous invite côté un roulet de veau et pas de la diodiote. Vous le prendrez en passant ? Entendu, répondit Adrien avec un rire soudain et populaire. Politesse oblige. Le boucher s'inclina vers moi avant de rejoindre le zinc, car pendant son intermède au comptoir, sa femme tranchait. « Ce soir, vous serez mon hôte, me dit Adrien, si vous êtes sans programme, cela va sans dire. Venez goûter ma cuisine, cela me changera les idées, et puis nous bavarderons. »« Oh, c'est bien, j'apporterai à Montrachet pour nous éclaircir la voie. »